RFI, grand reportage, Thomas Arms.
Grand reportage aux États-Unis. Les démocrates se mobilisent pour que la Floride reste bleue. Troisième état le plus peuplé des États-Unis, la Floride est l'un de ces états qui font ou défont une élection présidentielle américaine. Il dispose de 29 grands électeurs, alors qu'il en faut 270 pour remporter l'élection. Et en l'an 2000, c'est ici que George W. Bush l'avait finalement emporté au terme de longues journées de suspense. Donald Trump ne l'emportera pas sans la Floride. Hier et avant-hier, il y avait d'ailleurs multiplié les meetings électoraux, tout comme son adversaire démocrate et ses soutiens. Alors que les sondages changent pratiquement de jour en jour, le scandale des courriels d'Hillary Clinton complique la tâche de ses partisans, que notre envoyé spécial Eric Sanson a suivi dans la circonscription de Pinellas, dans la ville de Saint-Pétersbourg, en face de Tampa. Les démocrates se mobilisent pour que la Floride reste bleue. Son grand reportage que l'on écoute tout de suite.
Il ne pleut pas souvent en Floride, état qui a bâti sa réputation et bonne partie de sa fortune autour du slogan « le Sunshine State », l'état du soleil. En revanche, la couleur violette de la chanson de Prince lui sied à merveille, comme l'explique Ed Benson, professeur de sciences politiques de l'Université de Floride du Sud.
La Floride est violette, entre bleu et rouge, entre démocrates et républicains. On appelle ça un swing state, un état qui change, qui passe d'une tendance à l'autre. 2000-2004, George W. Bush a été élu. 2008-2012, c'est Barack Obama qui est passé.
En octobre dernier, les démocrates paraissaient en bonne voie de conserver l'état de Floride. Donald Trump agissait comme son meilleur ennemi et enchaînait scandale sur scandale, ce qui ne l'empêchait pas de se montrer optimiste lors de ses meetings.
Nous venons de quitter un autre comté de Floride. Nous y avons été reçus par une foule que vous n'imaginez pas, plus de 15 000 personnes. Tout le monde n'a pas pu rentrer pour participer au meeting, car la place manquait. C'est toujours le cas d'ailleurs, car on sent que le mouvement en ma faveur grandit de façon extraordinaire. Le 8 novembre, nous allons regagner l'État de Floride et surtout, nous allons reprendre la Maison Blanche. Nous allons la reprendre.
Ce qui pouvait paraître comme une rodomontade il y a encore quelques semaines, ne l'est plus aujourd'hui. Fin octobre, une enquête du New York Times donnait au candidat républicain 46% des intentions de vote en Floride, 4% de plus qu'Hillary Clinton. La tendance est dans la marge d'erreur et donc loin d'être définitive, mais n'étonne pas le journaliste et professeur universitaire Richard Potts.
Les élites sous-estiment le niveau de rejet d'une bonne partie de la population. Cela est dû en partie au fait que les gens normaux n'ont pas les moyens de communiquer. Quand on les y invite, ils sont souvent poussés à réfréner leurs opinions. Donc je crois qu'il est très vrai que les élites politiques et journalistiques n'ont pas vraiment conscience de la frustration de nombreux Américains. Si Donald Trump doit être élu, cela viendra de là.
Un avis que partage Ed Benson.
Trump a su tirer parti de la frustration de nombreux Américains. Beaucoup ont la sensation que le pays n'avance plus depuis longtemps. L'économie va un peu mieux depuis la crise de 2007-2008, mais elle avance encore au ralenti. Regardez le plan Obamacare de généralisation de l'assurance médicale. La moitié de la population est pour, l'autre moitié contre. Le pays est divisé, le pays est polarisé.
Et d'autant plus polarisé qu'il a beaucoup changé. Pour Richard Potts, stigmatiser les électeurs de Donald Trump serait cependant une erreur.
La réponse facile serait de dire qu'ils haïssent tout et tout le monde. Mais il y a des réponses plus spécifiques. J'ai 41 ans et les États-Unis d'aujourd'hui sont différents de ce qu'ils étaient quand j'étais jeune ou avant ma naissance. La population est plus variée en termes de démographie, de race et de religion. Donc les Blancs qui avaient le pouvoir, qui partaient du principe que l'ordre des choses était immuable, soudainement voient les choses changer et ils sont sous pression.
Moins de sécurité économique, moins de pouvoir, moins de prestige. Les hommes blancs de classe moyenne et non diplômés ne sont pas pour rien la base des partisans de Donald Trump.
Il est difficile d'articuler clairement les raisons qui expliquent la poussée de Donald Trump. C'est une convergence d'événements et Trump dit aujourd'hui ce que les personnes en colère veulent écouter. C'est son moment. Il y a 10 ou 15 ans, il a plusieurs fois flirté avec la possibilité de se présenter, mais finalement, il a reculé. Je ne sais pas s'il n'était pas prêt ou s'il pensait que le pays ne l'était pas. À l'époque, clairement, il n'aurait rien obtenu.
À 4 jours des élections, la mise est sur la table et les jeux ne sont pas encore faits. À Saint-Pétersbourg, de l'autre côté de la ville et de la baie de Tampa, les démocrates sont mobilisés depuis des mois. Premier objectif, faire voter les habitants les plus défavorisés, et notamment les Afro-Américains. Wenge Newton, candidat au Congrès de l'État de Floride.
L'État et le comté peuvent toujours changer de couleur politique. Le défi, ce sont les nouveaux électeurs qu'il faut arriver à faire voter. Saint-Pétersbourg est la troisième ville la plus peuplée de l'État et la plus importante du comté. Nous avons environ 174 000 électeurs enregistrés pour voter, en moyenne. Si l'on voit les élections passées, de 29 à 30 000 seulement sont allés voter. Donc évidemment, il faut convaincre de nouveaux électeurs de s'enregistrer, mais le 8 novembre, il faudra surtout les convaincre d'aller voter.
Au sud de Saint-Pétersbourg, Linda Lucas sillonne son quartier depuis des mois avec le même objectif.
Notre comté est de ceux qui peuvent virer. Nous étions bleus, démocrates, lors des dernières élections de Barack Obama. Mais avant, nous étions rouges, républicains. Pour cette élection, nous avons un peu plus d'électeurs enregistrés. Donc si nous pouvons les convaincre d'aller voter, nous gagnerons.
Terry Hayden est l'un de ces électeurs indécis que les partis républicains et démocrates cherchent à recruter. Multipliant les emplois pour s'en sortir, le vote de mardi prochain ne l'enthousiasme guère, et c'est peu dire.
Vous savez, cette élection, il n'y a rien de bon à en tirer. Donald Trump est une terrible personne. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Quel que soit son plan de gouvernement, sa personnalité est telle qu'il cherche à dégrader les gens. Quant à Hillary Clinton, elle fait partie de cette élite politique qui a géré le pays et n'a pas fait un grand travail. Quand de nombreux Américains disent vouloir le changement, je suis d'accord avec eux, sauf que cette élection n'est pas le changement que nous attendons.
Pour les volontaires du Parti démocrate, les électeurs comme Terry Hayden sont une priorité, car quelque part, leurs positions politiques sont plus proches des bleus démocrates que des rouges républicains.
J'étais un fervent supporter de Bernie Sanders. Malheureusement, il n'a pas passé le cap des primaires démocrates. Vous savez, socialisme est presque un gros mot aux États-Unis. Mais les idées progressistes de Sanders étaient intéressantes pour réduire la brèche entre les riches et les pauvres qui a tendance à s'agrandir.
Tous les sondages montrent qu'Hillary Clinton ne provoque que fort peu d'enthousiasme auprès des partisans de Bernie Sanders, qui aura défendu ses chances jusqu'au bout lors de la primaire démocrate. Une tendance qui inquiète Barbara Ellis.
Je crois qu'il y a beaucoup d'apathie chez les électeurs qui ont fortement soutenu Bernie Sanders à la primaire démocrate. Je crois que certains, et cela me fait très peur, ne vont pas aller voter. De fait, on vient de parler avec quelqu'un qui nous a dit exactement cela. Rajouter que certains électeurs hommes ont encore du mal à accepter l'idée de voter pour une femme, alors qu'il est plus que temps qu'une femme de la qualité et de l'expérience d'Hillary Clinton soit élue présidente. Il est absurde même que ce ne soit jamais arrivé avant.
J.D. Alexander, lui, a fait son choix.
J'ai soutenu Bernie Sanders pendant la primaire démocrate. Je sais que Bernie est aux côtés d'Hillary à fond la caisse, excusez l'expression. J'espère simplement qu'elle récupérera une partie des propositions de Bernie et les appliquera pendant son mandat. Je crois qu'elle va gagner la présidentielle. J'ai d'ailleurs voté en avance pour elle. J'espère qu'elle lancera un programme de New Deal, comme Roosevelt, dans les années 30, et qu'elle se préoccupera notamment de l'environnement.
Quant à s'abstenir ou voter pour une hypothétique troisième voie qui n'a jamais prospéré aux États-Unis, J.D. Alexander l'a fait une fois et le regrette encore.
J'ai des amis qui me disent de voter pour Jill Stein, la candidate écologiste. Mais vous savez, j'ai déjà voté pour Ralph Nader en l'an 2000. Et en Floride, ça a été plutôt une mauvaise idée, puisque ça nous a donné 8 ans de présidence de George W. Bush.
Obligé de prendre un deuxième emploi pour s'en sortir, Terry Hayden n'a toujours pas décidé d'aller voter, même s'il a quand même une préférence.
Si je vote pour Hillary, ce sera plus pour que Trump n'entre pas à la Maison-Blanche. Si elle pouvait incorporer à son programme une partie de la plateforme de Bernie Sanders, ce serait bien. Vous savez, je travaille dans un cabinet d'avocats, mais je suis aussi chauffeur Uber, car il faut que je termine de payer mon crédit étudiant. Donc tout ce qui peut faire baisser le coût de l'éducation sera une bonne chose.
Dans tout le pays, d'autres électeurs seront plus difficiles à convaincre. Ils n'aiment ni le ton, ni le contenu de la campagne électorale, et encore moins les candidats. C'est le cas du journaliste Paul Glader.
Je suis si fatigué de cette campagne électorale. Je crois que la limite pour m'enregistrer sur les listes électorales était aujourd'hui et j'ai oublié de le faire. Donc je ne vais pas voter et ça ne me gêne pas plus que ça. Je crois que nous sommes nombreux à être frustrés par ce qui se passe dans ce pays. Je me sens comme un électeur indépendant, quelqu'un qui n'est pas enregistré comme républicain ou démocrate. Et surtout cette année, je suis comme beaucoup. J'aurais bien envie d'avoir un troisième parti à ma disposition car vraiment le choix n'est pas fabuleux.
Présidente d'un club démocrate de la partie sud de Saint-Pétersbourg, ville où les électeurs se partagent en tiers entre républicains, démocrates et indépendants, Linda Lucas sonne à toutes les portes de son quartier pour convaincre les indécis. Plutôt que de réagir aux excès de Donald Trump, elle préfère vendre Hillary Clinton.
Écoutez, nous les démocrates avons vraiment un message positif. Nous n'avons pas besoin de faire campagne contre Donald Trump. Nous avons une grande candidate qui a dédié sa vie au service public, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui a négocié des traités de paix et qui est une femme honorable. C'est elle qu'il faut soutenir. On s'en fiche de ce qu'invente l'autre candidat.
Difficile pourtant de faire l'impasse sur Trump. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop.
Il est notre côté obscur. Il ment, il se moque des gens, il les humilie. Il ne représente pas ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des gens qui insultent les Mexicains et les musulmans. L'Américain moyen n'est pas comme cela, c'est seulement une minorité. Il tire parti des médias, il capitalise sur ça, il sait les utiliser, il fait le show, mais il n'est pas prêt à être président.
Reste à convaincre une majorité des électeurs, et notamment ceux qui n'écoutent la campagne que d'une oreille, voire aucune.
Certains électeurs sont mal informés. Cela signifie peut-être qu'ils ont deux boulots, qu'ils n'ont pas le temps de se maintenir au courant. Ils ont des enfants, ils sont occupés, ils ont d'autres problèmes. Beaucoup ne se sont pas remis de la crise de 2008. Beaucoup voient Trump comme un changement. Ils reprochent aux démocrates de ne pas les avoir soutenus et ils veulent autre chose. Ils ne savent pas exactement ce que c'est, mais ils veulent quelque chose de différent.
Même si elle défend le bilan du président Barack Obama, Linda Lucas ne se voile pas la face. Elle reconnaît que de très nombreux Américains ont encore de grosses difficultés et sont donc réceptifs au discours protestataire de Donald Trump.
Les gens ont peur. Ils voient que le système d'école publique s'effondre, pas de bonne éducation pour leurs enfants, pas de travail pour eux, des salaires qui n'augmentent pas assez, en particulier ceux que reçoivent les universitaires qui doivent payer leurs crédits. Donc les choses ne vont pas bien et il y a encore beaucoup à faire.
Démocrate de longue date, Bernice Darlene trouve injuste que le président Barack Obama soit rendu responsable de la situation.
Quand les choses vont mal, les gens blâment en général la personne qui est au sommet, le président. Ils sont mal informés car ils ne connaissent pas le rôle et l'importance du Congrès. Ils ne savent pas qu'ils ont moins de bénéfices car les programmes sociaux ne sont plus financés ou supprimés par le Congrès. Ils ne savent pas que le président est souvent impuissant quand le Congrès bloque l'approbation du budget ou supprime les aides sociales.
Du coup, Bernice Darlene ne va pas quitter son bâton de pèlerin. Elle est de tous les rendez-vous et pique-niques organisés par le Parti démocrate pour que la population se déplace en nombre le 8 novembre prochain.
Pour que les choses avancent comme nous le souhaitons, il faut faire du porte-à-porte, convaincre les indécis. Et c'est ce que nous faisons, c'est le rôle du parti. Les gens qui croient que le président est responsable de tout ce qui leur arrive de mal doivent savoir que très souvent, le président ne peut rien faire.
Regrettant le manque d'informations de nombreux électeurs, les volontaires du Parti démocrate comme Anne Rollet en rendent souvent les médias responsables.
C'est une grave erreur de nos médias. Ils lui ont trop facilité la tâche. Il les a manipulés et ils se sont laissés faire. Ils ont répété et publié tout ce qu'il a dit. Ces bouts de messages ont été entendus sans analyse par les électeurs les moins informés et ils ont aussi été manipulés. Nous avons un média ici qui s'appelle le National Enquirer. C'est genre tableau. Et les gens croient ce qu'ils publient. Ils disent qu'Hillary et son mari sont des assassins, qu'ils ont tué des gens. Un défaut ici aux États-Unis, c'est que la population a tendance à ne pas vérifier ce qu'elle lit, à ne pas faire de recherches.
Comme dans la publicité, la multiplication de messages finit par influencer l'opinion publique. Eric Degans est analyste de médias à la Radio Publique Nationale. Il constate cet effet négatif depuis longtemps, notamment quant à la figure de la candidate démocrate.
Les Clinton ont été la cible de la critique des médias conservateurs depuis longtemps. Ils sont devenus le symbole de ce libéralisme que des groupes de presse pro-républicains essaient de vaincre depuis longtemps. Cela a conduit à de nombreux reportages et contenus médiatiques cherchant à les attaquer, à les discréditer. Les contenus étaient parfois justes, parfois injustes. Mais en ce qui concerne Hillary Clinton, ces 30 ans d'attaques médiatiques ont clairement eu de l'influence sur l'image que les gens ont d'elle.
Vivant à Saint-Pétersbourg depuis 45 ans, Bill Darlene vend donc chaque fois qu'il le peut les louanges de la candidate démocrate, en particulier à ses voisins encore indécis.
Je crois vraiment que nous n'avons jamais eu un candidat présidentiel aussi qualifié qu'Hillary Clinton aujourd'hui. Oui, aucun. Regardez le nombre de postes qu'elle a occupés dans l'administration publique. Elle est clairement super qualifiée. Je sais qu'on lui reproche de faire partie du système, mais je ne vois pas ce que cela a de négatif. Cela veut dire simplement qu'elle sait comment fonctionne le système et qu'elle a de l'expérience.
Barbara Ellis, elle a choisi un autre angle d'attaque, celui du féminisme, pour essayer de convaincre les femmes du voisinage. Après la diffusion de ses vidéos dans lesquelles Donald Trump tenait un langage ordurier envers les femmes, elle insiste sur l'importance symbolique que représenterait pour les États-Unis le fait que le président le plus puissant au monde soit une présidente.
Nous, les femmes, sommes encore très loin d'une véritable égalité aux États-Unis. Vous pouvez le constater tous les jours dans les entreprises en regardant votre fiche de paye et quelle que soit votre activité. L'égalité réelle est encore loin d'être une réalité. Il y a encore de nombreux Américains qui vivent dans le passé qui aimeraient que leurs femmes restent à la maison et s'occupent de la cuisine ou d'activités soi-disant féminines. Il y a encore des hommes qui ne croient pas qu'une femme puisse diriger un pays comme les États-Unis. Eh bien oui, nous pouvons le faire et il est temps de le prouver.
Anne Rollet, quant à elle, insiste sur les défauts de Donald Trump.
Ce candidat, je hais même le simple fait d'avoir à dire son nom, mais bon, Trump est différent de toute autre personne ayant jamais été candidate à l'honorable poste de président de ce pays. J'étais en Australie en août dernier, j'ai parlé avec des gens là-bas qui aiment les États-Unis et ils me disaient « Comment avez-vous permis que cela arrive ?»
S'il est apparemment efficace à l'étranger, cet angle d'attaque anti-Trump ne l'est pas forcément en Floride. Pour des raisons que les démocrates de Saint-Pétersbourg ont du mal à comprendre, les scandales de la campagne républicaine, la non-révélation de sa feuille d'impôt, la multiplication de promesses difficiles voire impossibles à tenir, le lâchage de nombreux barons républicains ne sont pas suffisants pour faire s'effondrer la candidature de Trump. Bernice Darlene le regrette jour après jour.
Quoi qu'il fasse, ses supporters le défendent. Hier soir encore à la télévision, tu les écoutes. Oui, il a fait ça, mais Hillary, c'est pire. Par exemple, l'histoire des propos insultants pour les femmes dans une vidéo, ses partisans te disent « c'est pas grave ce qu'il a dit parce que c'était il y a 12 ans ». Et c'est une brute avec les femmes et ça ne leur suffit pas. Ils reprennent l'histoire des courriels d'Hillary comme si c'était aussi grave que ce comportement. Ils ne vivent pas sur la même planète.
Dans un État qui par deux fois a donné la victoire présidentielle à Barack Obama, mais dont le gouverneur est républicain, le pronostic de l'élection de mardi est réservé. Hillary Clinton devrait compter sur le vote des électeurs hispaniques, moins républicains que dans le passé, et dont beaucoup n'apprécient pas les attaques permanentes de Donald Trump contre les Latinos. Selon le Washington Post, 55% des électeurs qui se sont inscrits ces trois derniers mois sur les listes électorales sont de minorités a priori plus favorables à la candidate démocrate. Donald Trump a quant à lui l'avantage d'être soutenu par une large majorité des électeurs se réclamant du Parti républicain. Pour Ed Benson, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride du Sud, le match pourrait se jouer dans l'anonymat du bureau de vote lors de ce qu'il appelle le smell test.
Certaines personnes vont attendre la dernière minute pour voter en fonction du test de l'odeur. Elles voteront pour qui sent le moins mauvais. Elles ne vont pas voter pour quelqu'un, mais contre quelqu'un. C'est d'autant plus vrai que les gens sont mal informés et que seuls 25% suivent la campagne.
Même s'il ne va pas voter, le journaliste Paul Glader ne perd pas l'espoir quant à lui d'un final un peu plus positif après une campagne calamiteuse.
Je crois que notre société est résiliente. Le populisme de Bernie Sanders et de Donald Trump a mis en lumière des besoins de la population, des problèmes de notre société auxquels il nous faut prêter attention. J'espère que le prochain président saura le faire et que notre pays pourra, d'une façon ou d'une autre, se réunir.
Vœux pieux ou réalité ? Réponse début 2017 après le départ de Barack Obama. Grand reportage à Saint-Pétersbourg, Eric Sanson. Réalisation, Laurie Plisson.
Mon ami, il y a une émission bizarre.